Alors, ce matin, on va parler, chose promise, chose due, de la petite formule dont peut-être Antoine, tu veux en dire deux mots, post tenebras lux, pour dire comment tu y as pensé, pour redire comment tu y as pensé.
C'est ma mère, mardi dernier, je crois d'ailleurs. J'ai pris mon vélo et je vais me promener vers le bas vers l'Alsace. Et puis en montant vers la ville de Provence, j'ai posé mon vélo et je me suis promené tout dans la ville, et qui était complètement déserte et fermée. C'est une vieille ville médiévale qui est vraiment perchée et qui aujourd'hui fait partie de ces petites villes qui vivent essentiellement du tourisme. Donc il n'y avait personne et tout était fermé. Et au milieu de. Au pied du château, ce qui devait être anciennement des dépendances d'une grande maison noble, il restait une grande fenêtre avec un très beau linteau, et donc une fenêtre ouverte en pierre, en calcaire, très beau, très blanc, et juste au-dessus, il y avait cette formule qui a été gravée en 1571, qui est « Post tenebras lux ». Et en rentrant, j'ai trouvé que c'était... j'avais été assez saisi par le... la force de la formule dans ce contexte-là de la pandémie actuelle, l'espèce d'arrêt dans lequel on est, l'espèce de société qui est figée et qui était particulièrement vivante dans cet endroit-là, où en fait cet endroit-là était tout mort, tout fermé, toutes les fenêtres fermées, tout cet endroit assez étrange en même temps qui est un lieu du passé, qui en même temps vit aujourd'hui de manière assez... brouillard artificiel à travers tous ces magasins de savon, de tourisme, et au milieu de ça, cette espèce de fenêtre qui se dresse, et ce message biblique, en fait. En cherchant un coup, on a vu que ça venait du livre de Job, et on s'est dit que ça irait bien avec notre thème de la semaine, de la Renaissance.
Donc peut-être, première précision, préliminaire utile, post tenebras lux, c'est du latin, et en français, si on traduit donc le plus littéralement possible, et ensuite évidemment le travail ça va être d'interpréter cette littéralité, ça veut dire après les ténèbres, la lumière, post en latin c'est après, post tenebras lux, après les ténèbres, la lumière, et je précisais l'autre jour... que le mot « luxe » en latin est un des deux mots pour désigner la lumière, pour désigner en l'occurrence la lumière divine, par rapport à la lumière de la bougie, ou les lumières, toutes les lumières du monde sensible. Et le mot en latin, là, pour la lumière du monde sensible, c'est « lumen ». Donc là, on n'est pas dans le « lumen », on est dans le « luxe ». Dans le « luxe ». Ok, d'accord. Ça c'est fait. Bon, alors en effet, comme c'est le cas au Beau de Provence, l'origine la moins ancienne, donc même si ça vient du livre de Job, c'est une devise de la réforme protestante. Alors pour situer les choses, parce que ça va encore mieux en le disant, la réforme protestante c'est le début du XVIe siècle. Luther commence sa prédication. Public, notamment à partir de 1517-1521, et dans le sens protestant, cette devise « après les ténèbres, la lumière » signifie, dans l'esprit de la réforme protestante et des fondateurs du protestantisme, Luther et puis ensuite Calvin, signifie la restauration, dans leur esprit, la restauration du christianisme originel, la restauration d'un message évangélique et d'un modèle christique qui aurait été perdu, qui aurait été même trahi par l'Église catholique avec son faste, sa pompe et sa prétention à servir d'intercession nécessaire entre l'homme et Dieu. Donc le protestantisme entend restaurer ce qui était, selon lui, à l'origine, une relation plus directe entre l'humain et le divin, et une relation plus directe au Christ, au message du Christ, et au modèle du Christ, notamment à son modèle de charité, de pauvreté, d'humilité, d'ascèse, par opposition à ce qui était devenu à la Renaissance le faste de l'Église catholique et de ce qu'on appelait les prélats, parce que le prélat c'est celui qui se prélasse dans la soie. Bon. Deux niveaux de compréhension en fait de cette phrase. Post tenebras lux, il y a un sens obvi, c'est-à-dire un sens évident, littéral, commun, exotérique, et il y a un sens qui est un sens plus caché, en tout cas subtil, donc un sens qu'on va appeler à partir de là ésotérique, et c'est l'opportunité pour nous de réfléchir à quelque chose qui caractérise tout symbole traditionnel. Et ce symbole de la lumière qui vient après les ténèbres est à cet égard tout à fait caractéristique, symptomatique. Tout symbole a deux faces, toujours. C'est-à-dire qu'il a au moins deux niveaux de compréhension. Un niveau de compréhension immédiat et un niveau de compréhension caché. Et ce qui est spectaculaire dans le symbole traditionnel, c'est que souvent, le symbole caché est l'inverse du symbole immédiat. C'est-à-dire que c'est comme si, quand vous lisez une deuxième fois, vous deviez lire à l'envers. Vous voyez ? Voilà, donc ça c'est une clé d'interprétation symbolique à peu près universelle que vous pouvez appliquer dans la méditation sur un certain nombre de symboles. Et là c'est très simple en fait. Ces deux symboles sont... La relation entre les deux est très simple. Le sens immédiat, le sens obvi, c'est la lumière... Le rôle de la lumière, la fonction de la lumière, est de chasser les ténèbres, de dissiper l'obscurité. Et selon ce sens qui est le sens évident, le sens obvi, le sens commun, la lumière est connotée positivement et les ténèbres sont connotées négativement. Donc il y a un progrès dans le passage des ténèbres à la lumière. C'est ce que va symboliser, de la manière la plus sensible et cosmique, le passage de la nuit où on ne voit rien au jour où les choses sont visibles, discernables, etc. Mais, derrière ce sens obvi, exotérique, il y a un sens subtil ou ésotérique qui est strictement l'inverse. C'est-à-dire que là, il ne s'agit plus de dire que la lumière chasse ou dissipe les ténèbres, qui serait synonyme d'une obscurité mauvaise, mais que la ténèbre enfante la lumière.
C'est ça. Non, mais pardon, excuse.
Pardon. Deuxième ouf. Les ténèbres enfantent la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que sans les ténèbres, il n'y a pas de lumière. Ça veut dire que d'une certaine façon, là, et c'est là que le symbolisme s'inverse, non seulement la ténèbre n'est plus connotée négativement, mais il y a une supériorité même de la ténèbre sur la lumière, ou plus exactement, il y a dans la ténèbre une lumière invisible qui est supérieure à la lumière visible. Et c'est une raison pour laquelle... Dans un certain nombre de cheminements mystiques, il va y avoir non pas une recherche de la lumière, mais une recherche de la ténèbre. Pour le dire d'une image qui est classique dans les traditions initiatiques, l'initié va s'enfoncer dans la nuit. Voilà. Et pourquoi est-ce qu'il va s'enfoncer dans la nuit au lieu d'aller chercher le jour ? Il va s'enfoncer dans la nuit parce qu'il y a la transmission, depuis toujours, que la source de la lumière, la véritable origine de la lumière, et d'une certaine façon la forme supérieure de la lumière, se trouve paradoxalement dans l'obscurité. De là, par exemple, le grand poème de Saint Jean de la Croix, au XVIe siècle, il y a un grand poème, c'est pas Saint Jean de la Croix, ça m'émeut un peu, son poème qui s'appelle La nuit obscure. La nuit obscure. Et le poème relate la façon dont Saint Jean s'enfonce dans la nuit Et il s'enfonce dans la nuit en cheminant à partir de sentiments qui sont des sentiments qui peuvent paraître extrêmement négatifs, mais qui vont être les moteurs dynamiques de la vie de son avancée spirituelle. Il s'enfonce dans la nuit parce qu'il prend de plus en plus conscience de sa misère, il prend de plus en plus conscience de... Et c'est ça, s'enfoncer dans la nuit, c'est ça ce que ça signifie métaphoriquement. C'est-à-dire que la nuit, c'est ce moment où on ne voit plus rien, donc on avance complètement à l'aveugle, ce qui est en réalité une prise de conscience par l'humilité, que si l'on veut cheminer vers la vérité, aucune de nos facultés ne peut nous aider, qu'on est complètement démuni, qu'on est dans un état de pauvreté véritablement extrême, parce que ce qu'on vise, on ne peut l'atteindre ni par le courage, ni par la volonté, ni par la détermination, ni par l'intelligence, etc. etc. Et donc ce mouvement de dépouillement exprime en réalité, d'un point de vue initiatique et du point de vue du cheminement, ce que signifie métaphoriquement le fait de s'enfoncer dans la nuit. Bon, alors je vous lirai à ce sujet un petit texte, mais je voudrais pas aller trop vite. Je vais aller rapidement hein, quand même dans cette présentation, mais je voudrais revenir un tout petit peu d'abord sur le sens obvi, sur le sens évident, parce que ce sens évident, il a quand même déjà en lui-même ou en soi une vraie profondeur. C'est pas parce que je dis le sens évident qu'il s'agirait de le mépriser, parce que ce sens évident et que, donc, cette lumière qui chasse les ténèbres, et que il y a d'abord là-dedans quelque chose qui est de l'ordre d'une espérance ou d'une confiance. Ça, les religions le transmettent énormément. Toutes les religions, dans leur eschatologie, c'est-à-dire dans leur imagination de ce qui va venir après, de l'avenir, du futur de l'humanité. Toutes les religions ont cette dimension de promesse d'une lumière qui va venir après les ténèbres, d'une lumière qui va chasser les ténèbres, c'est-à-dire d'un monde de paix, de justice, qui viendra après le monde tel qu'il est aujourd'hui et qui est imagé par la ténèbre, c'est-à-dire un monde d'obscurité, un monde d'injustice, un monde où règne le mal, ou plutôt où le bien et le mal sont très difficilement discernables, etc. etc. Donc cette force de l'image qui nous fait une promesse hein, et qui, à partir de là, appelle à avoir, à nourrir en soi, à développer en soi une confiance et une foi véritablement, pas nécessairement en Dieu, mais dans un avenir, avec l'idée qu'il y aurait là, en quelque sorte, une loi de la vie, une loi selon laquelle toujours, inévitablement, irrémédiablement, et c'est ce qu'on peut attendre avec confiance et avec espérance, la lumière va finir par arriver, le jour va finir par se lever, la conscience ou la connaissance va finir, dans un moment d'éveil, par succéder à l'ignorance. Vous voyez ? Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Et dans le monde visible, la lumière est présentée par les différentes traditions spirituelles comme étant l'expression la plus originelle, la plus pure et la plus puissante du divin. Ça, c'est quelque chose qui est très important à savoir. Le symbole de la lumière, c'est le symbole de ce qui est avant même l'être, je dirais. C'est-à-dire que la lumière, pour les différentes traditions spirituelles, c'est la conscience et la présence créatrice de Dieu. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Et c'est ce qu'on va retrouver, par exemple, dans... je vais vous lire un extrait, un passage du Coran. C'est un verset très très connu. Hein. C'est le verset de la lumière, justement. C'est dans la sourate 24, c'est le verset 35. Et alors, c'est, ça je le rapporte au fait que dans l'islam, Dieu a 99 noms. Et parmi ces 99 noms, un des plus éminents, c'est le nom Nour, qui veut dire la lumière, justement. C'est-à-dire que Dieu est le lumineux par excellence. Et c'est ce que va expliciter ce long verset, qui est un verset très poétique, très elliptique. C'est-à-dire qu'il fait allusion à quelque chose de manière très subtile, à travers des belles images. Et je vous en laisse juge. Après, je vous lirai en arabe, si vous voulez. « Dieu est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est comparable à une niche. » Où se trouve une lampe. La lampe est dans un verre. Le verre est semblable à une étoile brillante. Cette lampe est allumée à un arbre béni, l'olivier, qui ne provient ni de l'Orient ni de l'Occident, et dont l'huile est près d'éclairer sans que le feu la touche. Lumière sur lumière, Dieu guide vers sa lumière qui il veut, Dieu propose aux hommes des paraboles, Dieu connaît toutes choses. Cette lampe se trouve dans les maisons que Dieu a permis d'élever, où son nom est invoqué, où des hommes célèbrent ses louanges, à l'aube et au crépuscule. Je peux vous demander, si vous voulez. Donc, Allahu nuru samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajatin, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun, yuqadu min shajaratin mubarakatin. مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه النار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم etc. Là je vous ai lu jusqu'à والله بكل شيء عليم. Dieu est savant sur toutes choses. Et donc, deux petites choses par rapport à ça, qui sont intéressantes. La première, c'est qu'il y a une allusion, par exemple, très subtile, à une lumière qui est au-delà de la lumière. Ce dont je parlais, de la lumière invisible, qui est au-delà de la lumière visible. Parce que le verset dit « lumière sur lumière », ou « lumière au-delà de la lumière », au-delà de la lumière. En arabe, « nourun ala nour ». Donc là, il y a une allusion à deux lumières, en fait. Une lumière qui serait dans les ténèbres et une lumière qui serait la lumière sensible, la lumière visible, ou cette lumière qui s'appelle Dieu. Première chose. Et deuxième chose, je vous ai lu ce verset parce que, donc, dans le, je vous ai lu deux versets, en fait, et dans le dernier verset, il y a une référence à l'aube et au crépuscule. Et ça, j'y reviendrai à la fin, pour vous dire une dernière petite chose. J'y reviendrai à la fin. Voilà, donc... Si vous avez envie de passer du temps à méditer là-dessus, je vous dirai où c'est. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, sur le deuxième point, alors j'en ai un petit peu parlé. Je vous en ai un petit peu parlé. Et là, je voudrais vous dire, sur cette ténèbre qui est visée par le mystique, qui s'enfonce dans sa nuit intérieure, qui s'enfonce dans la nuit de l'être, et en réalité, vers quoi il va ? Il va vers l'invisible, il va vers le caché. Il va vers ce qui est au-delà de tout ce que peut concevoir le mental, de tout ce qui peut faire l'objet d'une sensation, d'une émotion, d'une perception, d'une représentation, d'une compréhension. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui a été très très développé, notamment par un mouvement ou une théologie qui est très présente dans différentes traditions spirituelles, de l'Advaita Vedanta des hindous, au soufisme musulman, ou à ce qu'on a appelé chez les chrétiens la théologie apophatique. Ça, c'est un livre qui est dans la bibliothèque, qui est un livre que j'aime beaucoup. C'est un moine syrien qui a vécu à peu près au 6e siècle de notre ère, qui s'appelait Denis l'Aréopagite, ou le pseudo Denis. Et le pseudo Denis est un des, et même pas seulement un des, est vraiment le grand représentant dans la mystique chrétienne, dans la théologie chrétienne, de ce qu'on appelle la théologie apophatique, c'est-à-dire l'étude de Dieu au-delà de Dieu. Et donc en réalité, en rapport direct avec Post Tenebras Lux, Denis nous parle d'un cheminement vers un Dieu qui serait dans la ténèbre. Et qui serait même la ténèbre lui-même. Il va parler de ténèbres suressentielles. Et pourquoi Dieu serait la ténèbre ? Parce que Denis dit, en réalité, Dieu est tellement infini, Dieu est tellement absolu, Dieu est tellement immense, que nécessairement, il reste caché à toutes nos facultés. On ne peut pas l'appréhender. Il est au-delà de tout ce qui peut être appréhendé. Et donc, pour nous, nécessairement, il est la ténèbre même, c'est-à-dire qu'il est l'indicible, l'ineffable, l'inconnaissable, l'impénétrable, etc., etc. Et les chrétiens qui suivaient l'école de Denis, là il va parler d'un disciple qui s'appelle Timothée, ça vient du grec, c'est celui qui honore Dieu. Après, certains ont dévié par l'origine latine timeo, qui veut dire craindre, donc ce serait dans ce cas-là celui qui craint Dieu. Mais ce Timothée, justement, va cheminer vers la ténèbre, en fait. Et alors, il dit ça à Denis. Il dit, et vous allez voir ce chemin, justement, vers la ténèbre, il dit, telle est ma prière pour toi, mon cher Timothée. Par une application intense aux contemplations mystiques, abandonne. Vous voyez, voilà, le chemin de s'enfoncer dans la nuit, c'est abandonner. Abandonne les sensations. Abandonne les activités intellectuelles. Ouf. Abandonne tout le sensible. Abandonne tout l'intelligible. Abandonne tout ce qui n'est pas. Abandonne tout ce qui est. Et élève-toi autant qu'il est possible dans l'inconnaissance, vers l'union avec celui qui est au-dessus de toute essence, au-dessus de toute connaissance. Car c'est par une extase purement déliée, délivrée, détachée de tout et de toi-même, que tu seras soulevé vers le rayon suressentiel de la ténèbre divine, après avoir tout écarté et t'être détaché de tout. Et je fais juste une précision de doctrine chrétienne. Quand il dit « détache-toi de tout ce qui est, de tout ce qui n'est pas, de tout ce qui est toi et de tout ce qui n'est pas toi, vers le rayon essentiel de la ténèbre divine », dans cette théologie, le rayon essentiel, c'est-à-dire cette lumière pure dans la ténèbre, c'est le Christ. Voilà. Et donc à d'autres endroits, il va préciser ce que symbolise la figure du Christ, qui est justement cette lumière au-delà de la lumière, en fait. Donc c'est très très puissant, très très beau. Une dernière chose. Oui. Alors oui, pardon. Ça c'est... alors, il y a deux tomes, deux gros tomes. De Denis, on a gardé un livre qui s'appelle « Les noms divins » et un autre qui s'appelle « La théologie mystique ». Donc là, c'est la fin des noms divins, le premier tome est là-bas. Et ensuite, il y a « La théologie mystique ». Et ce que je vous ai cité, je ne me souviens plus, je crois que c'est dans la théologie. Oui, c'est dans la théologie mystique. Mais j'ai fait une petite encoche, donc vous pourrez voir où c'est. Voilà. Dernière chose, relative au verset, là. Donc, le Coran parle, mais bon, l'islam, évidemment, n'a pas du tout le privilège de ça, parce que toutes les traditions s'accordent là-dessus, parle de ces moments privilégié pour la méditation, méditation au sens large, ça peut être la prière, ça peut être tout type ou toute méthode de recueillement, parle de ces moments privilégiés de l'aube et du crépuscule, vous avez vu dans le verset. C'est directement lié à ce qu'on vient de dire sur la ténèbre et la lumière. Parce que l'aube et le crépuscule, c'est le passage des ténèbres à la lumière et de la lumière aux ténèbres. Donc en fait, il est conseillé de méditer à ce moment qui est un moment de passage, qui est un moment charnière. Et ça renvoie dans les métaphysiques traditionnelles, dans les initiations traditionnelles, à une certaine conception de la fonction de l'être humain, la fonction spirituelle de l'être humain, et donc du but de la vie spirituelle pour l'être humain. Cette fonction spirituelle de l'être humain est de voir la lumière dans le visible et dans l'invisible. Et c'est pour cela que l'homme se tient dans sa vie spirituelle de manière privilégiée au moment du lever du soleil et au moment du coucher du soleil, parce qu'à ce moment-là, il se tient entre le visible et l'invisible. Vous voyez ? Et quand il est véritablement sage, c'est-à-dire témoin de la vérité ou témoin de la réalité, ça veut dire qu'en regardant d'un côté, il reconnaît la lumière divine dans le visible et il reconnaît la lumière divine dans l'invisible. Et il est entre les deux le point de passage. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que vous retrouverez dans beaucoup, beaucoup de sagesse. Quand vous voyez, même dans un conte, les codes du type des contes qu'on a lu hier, quelqu'un qui se tient à un carrefour, vous voyez, ou qui se tient au bord d'une rivière, ou voilà, c'est-à-dire il se tient dans un endroit qui est un endroit de passage d'un lieu à un autre. Le symbolisme qui est derrière, c'est toujours celui-là, c'est-à-dire quelque chose qui est relatif à cette fonction de médiation, de médiateur, et de témoin et de passeur, qui est celle de l'être humain, parce que l'être humain n'a à craindre ni le plein jour ni la nuit, en fait, puisqu'il sait voir la façon dont la réalité essentielle se manifeste ou ne se manifeste pas, se trouve visible ou se trouve invisible, se trouve apparente ou se trouve cachée, selon qu'elle est donc dans les ténèbres, du côté des ténèbres ou du côté de la lumière. Voilà. Et c'est pour cela que le sage n'a peur de rien. Parce que, voilà, il n'a plus peur du noir.